Bonjour, bonsoir, chers auditeurs, chers spectateurs. Nous voilà revenus pour un nouveau numéro. Bonjour Marie.
Bonjour Pauline.
Aujourd'hui pour vous, nous allons parler donc de Passacaï, qui s'est tenu les 2, 3 et 4 avril au Théâtre Cantor, donc à l'ENS. Passacaï, dont le metteur en scène est donc Antonio Fuenca Ruiz.
Chers auditeurs, je voudrais tout d'abord aujourd'hui saluer nos chroniqueurs du jour. Oui, oui, chroniqueurs au masculin. Bonjour Lola.
Bonjour Marie.
Bonjour Mathilde.
Bonjour Marie.
Et enfin, nous avons réussi, rien que pour vous, à dénicher un peu de testostérone dans cette émission qui a failli être un peu fatiguée.
Il est très content.
Il est ravi d'être là avec nous. Bonjour Adrien.
Bonjour Marie.
Donc, nous revenons aujourd'hui sur Passacaï, qui a été donné récemment en Théâtre Cantor. Alors Passacaï, tout c'était, c'était une pièce. Spectacle assez original, puisque dans une première partie, on avait du théâtre, avec représentation, disons, de mêmes brides de phrases répétées trois fois dans une alternance différente. Et ensuite, on passait à des mouvements de danse très chorégraphiés, qui reposaient essentiellement sur cinq mouvements, oui. Cinq mouvements, on a réussi à les identifier à peu près. Le sphinx qui s'étire, on avait l'équerre, le dragon mozed.
Les menstrues douloureuses.
Les menstrues douloureuses. Et le triple axel à la Philippe Cambello. Donc je vais arrêter d'être aussi bavarde, puisque on n'est pas là pour m'écouter moi, mais on s'en fiche. On va plutôt laisser la parole à nos chroniqueurs. Mathilde, on t'écoute.
Il paraîtrait qu'une bonne œuvre d'art, et donc une bonne représentation scénique, ne livre aucune réponse. Bouscule le confort de celui qui la contemple. L'attrape à la gorge, comme pour lui dire « Si tu veux de l'univoque, du définitif, de l'évident, cale-toi devant plus belle la vie et laisse les esthètes tranquilles. » Finalement, je reconnais que ces mots sont parfois bien les miens. Et si je devais remercier ce monument de cuistrerie inutile pour autre chose que pour m'avoir fait prendre conscience que la vie est bien trop courte pour assister de son plein gré au rapt violent de 5 euros de mon budget en temps de crise et de 2 heures précieuses de mon temps, oui, si je devais remercier Passacaï, trouver à tout prix quelque chose de positif à dire sur la plus belle arnaque que m'a fait subir le théâtre Cantor, et Dieu sait qu'il a su me décevoir et jouer avec ma volonté sincère d'être une critique indulgence. Comme lorsqu'on cherche à trouver quelque chose de positif à dire à un hôte qui vous invite pour des pâtes carbonara et qui vous inflige d'ignobles nouilles à la crème fraîche. Eh bien, chers auditeurs, je remercierai Passacaï d'avoir à un tel point poussé dans ses retranchements mon goût de l'absurde et testé ma capacité à trouver des excuses à une représentation. Alors que j'écris cette chronique, je navigue sur ce que certains appellent encore la toile et je m'aventure sur la page Wikipédia consacrée à la Passacaï, notion inconnue pour moi jusqu'alors. Mais pourquoi donc avoir fait mine, pendant le long teasing qui a précédé cette sieste de 2 heures en Cantor, de connaître déjà toutes les subtilités de cette forme musicale? Selon cette chère encyclopédie en ligne, il s'agit d'une pièce de grande proportion, à 3 temps, lente et solennelle, basée sur la répétition et la variation d'un thème avec basse obstinée. La Passacaï apparaît dans les bateaux où les marins, pour oublier l'effort, chanter les mêmes notes en Italie. Ah ah ah, chers auditeurs, si seulement j'avais su plus tôt ce que signifiait réellement ce titre, j'aurais été à même de me hisser à la hauteur de tant de prétentions scéniques. Voilà donc ce que je suis, une ignorante. Ignorant tout de cette forme musicale, je n'ai donc pas compris que ce qui m'a semblé être un interminable exercice de coordination et d'occupation de l'espace de la scène, qui aurait eu toute sa légitimité en première année de n'importe quel conservatoire de France et de Navarre, était en réalité une réflexion sur la répétition et la variation à l'infini de mouvements qu'on se sent obligé d'appeler pas de danse. Je dirais même qu'il s'agissait de revenir aux origines même de la Passacaï, le chant répétitif des marins qui oublient l'effort. Mais qui sont donc les marins de cette avarie théâtrale? Est-ce les acteurs slash danseurs qui ont eu la bonté de partager avec nous un ensemble de mouvements non identifiés qui n'a rien à envier au pilates ou à la zumba, cardio, fessier, tout travail? Ou est-ce que cette mascarade interminable avait pour unique but de faire du public même des galériens qui oublient l'effort qu'ils devraient faire en tant que spectateurs? Effort pour apprécier la dite pièce, se laissant bercer par cette ronde médiocre et tombant enfin de sommeil? Il paraîtrait qu'une bonne œuvre d'art, et donc une bonne représentation scénique, ne livre aucune réponse. Mais Passacaï ne pose même pas de question, si ce n'est celle de sa propre légitimité en tant qu'œuvre d'art, et n'y répond que dogmatiquement. Passacaï, c'est une grande claque dans vos tronches, chers auditeurs. Fermez vos gueules, c'est de l'art.
Merci Mathilde. Alors, donc on l'a bien compris, Mathilde n'a pas du tout aimé. Et toi Adrien, penses-tu qu'il y avait quand même quelque chose à sauver dans cette pièce?
Alors, un petit peu, pas énormément, mais
Donc au début, je vais quand même commencer par les points positifs pour contrebalancer et essayer d'avoir l'air un peu moins triste.
Ah.
Alors, les points positifs, c'est déjà pour moi le choix des musiques et la performance des musiciens, qui se mélangent Gainsbourg, tout ça, c'est quand même ça le faisait, c'était très cool. L'intrigue de départ, qui était bien. La scène d'ouverture, et puis aussi le mélange des personnages, en fait, bon, on a compris que ça commence donc dans le passé, 30 ans plus tard, on a un nouvel occupant qui arrive, et puis moi j'ai eu l'impression de voir ce nouvel occupant qui se croisait avec les fantômes du passé, et là-dessus je trouvais que c'était assez bien pensé, et surtout c'était bien joué. Le troisième point positif, pour moi, c'était le livret. Alors, je sais que Mathilde n'est pas d'accord avec moi. C'était pas tant dans un sens explicatif, mais plutôt dans l'intention. Ça m'a plu. Je trouvais que c'était déjà quelque chose d'assez innovant et d'intéressant.
Tu parles bien des livrets qui étaient vendus avant la présentation.
Oui, les petits livrets qui étaient vendus à la présentation. Je me suis abordé par une jolie fille, donc du coup, je dépensais 15 euros pour un petit livret de 4 pages. Non, c'est pas vrai. Par contre, j'ai aussi dit pas mal de points négatifs, et c'est vrai que j'ai pas spécialement apprécié la pièce dans son ensemble. Ben, on peut dire que la pièce est divisée en deux parties, mais surtout la première partie est de 20 minutes, à la fin on a 40 minutes de chorégraphie. Fait que toi, peut-être ça de la chorégraphie plutôt que de la danse. Donc, ce qui est dommage, c'est que l'intrigue de départ est brutalement coupée, on a un peu laissé sur notre fin, moi c'est mon cas. On a envie de savoir la suite. Donc, le début de la pièce pose des problèmes, qui appellent à être résolus, et on n'a pas de réponse à ça. C'est dommage. Mon deuxième point négatif, c'est aussi que les deux tiers de la pièce sont quand même composés sur des déplacements géométriques, des pas de danse. Donc, Marie, tu as énuméré les figures qui sont très, 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 très répétitives. Alors, même si on a compris que la pasacaille, c'est quelque chose de répétitif, pendant 40 minutes, c'est trop, quoi. Et puis, une pasacaille, il y a quand même des mouvements. Moi, je les ai pas vus, les mouvements, clairement. Disons que les mouvements d'ensemble, alors oui, j'ai vu des déplacements géométriques, des triangles se dessiner, etc. Mais j'ai pas ressenti l'organisation générale, et donc j'étais assez déçu. Le fait est aussi que j'ai vu, apparemment, qu'il y avait un rapport avec la suite de Fibonacci, évidemment. Mais surtout, quel intérêt pour la pièce. Je veux bien qu'on donne des arguments mathématiques, géométriques, qu'on donne du matière à penser, mais pour le coup, j'ai pas eu l'impression que ça servait la pièce. Ça servait pas l'intrigue, c'est sûr. La musique, j'ai pas eu l'impression non plus. Le truc, c'était quand même un peu raté. Et même, en acceptant la répétition, finalement, je me suis un peu ennuyé après, quoi. Donc, et surtout, ça donnait un aspect un peu intello prétentieux à la pièce, qui était peut-être pas voulu au départ, mais voilà, on est rentré un peu dans le cliché, finalement, du théâtre contemporain. C'est un peu dommage, quoi. Je pense qu'il y a eu des idées de base qui étaient intéressantes, mais pour moi, ils n'ont pas réussi à capter mon attention dans toute la pièce. Alors que 40 minutes de chorégraphie sur les 1h20, c'était trop.
Donc Adrien a passé 1h30 en enfer, mais est-ce qu'on a une avocate pour le diable là?
Bizarrement, les gens qui préfèrent la danse ont adoré la fin du spectacle, on va dire effectivement les deux tiers. Les gens qui adorent le théâtre ont adoré le début du spectacle, les uns et les autres, vice-versa, tant ou n'aimant pas beaucoup les autres parties. Personnellement, j'ai adoré l'ensemble. Ce pourquoi ça n'a pas été aimé, c'est que c'était extrêmement plastique. Et une beauté plastique, c'est souvent à tort, parfois c'est un cliché, parfois c'est vrai aussi, une beauté froide.
Comme Pamela Anderson.
C'est une beauté froide, et je pense que ce qui a manqué dans cette pièce, effectivement, c'est peut-être une émotion. Une émotion de fond énorme qui puisse vraiment nous englober, que ce soit positif, négatif, que ce soit la colère, parce qu'il y a la colère, il y a de la haine, il y a du ressentiment, il y a aussi de l'amour. Mais effectivement, le fait que ce soit souvent une beauté extrêmement plastique, extrêmement, extrêmement esthétique, a, je pense, pu donner une impression de quelque chose de lisse. Et je peux comprendre, de fait, que la pièce n'est pas plus assez bonne. Maintenant, il faut dire que moi, en termes de musique, comme en termes de mise en scène, de danse, théâtre, etc., j'ai trouvé que c'était très bien fait. J'ai trouvé que la danse était vraiment magnifique. Alors, moi, je comprends pas pourquoi vous voulez pas appeler ça de la danse.
C'est le problème de l'art en général, quand on a un tableau tout blanc, quelque chose comme ça, c'est un problème de quelque chose qui est très, comment dire, très abstrait, peut-être dans l'art en général.
Mais un pas de danse en lui-même n'est-il pas abstrait? Enfin, c'est un peu la question. Un pas de danse n'illustre pas forcément toujours quelque chose.
Mais là, il y a quand même une intrigue, quand même, à la base.
Oui, mais l'intrigue, on est d'accord, mais... Et ce que tu disais, effectivement, on reste un peu sur notre fin. Mais ce qui est important dans cette partie de théâtre, c'est en fait de poser un système et ensuite de travailler sur ce système. Travailler sur la répétition, sur la superposition, sur l'enchevêtrement de figures, qui sont en fait des figures stylisées. Certes, alors du coup, ça donne naissance, et c'est là où c'est magnifique, c'est que quelque chose d'extrêmement formel donne naissance à du fond, on va dire, qui le sublime d'une certaine manière. Mais il y a ce côté formel qui est aussi en lui-même qui est son propre fond et son propre intérêt. Et c'est ce qui est ensuite illustré, avec la partie dansée. Où on s'intéresse finalement que à la figure et que au mouvement lui-même de répétition, etc. Donc il y a 5 figures,
moi que je trouve tout à fait des pas de figure de danse, hein, ne serait-ce que la pirouette effectivement à la Candeloro qui est en elle-même un pas de danse. Sur le livret, tu en parlais tout à l'heure Adrien, il y avait des images avec des figures géométriques, mmh. Je ne sais pas si vous vous souvenez,
ouais,
ça c'est typique en fait des danses baroques qui s'écrivent comme ça et qui s'apprennent comme ça. Donc elles sont extrêmement géométriques et c'est justement parce qu'elles représentent quelque chose sur le sol qu'elles sont d'abord dessinées au crayon, etc. de manière géométrique et ensuite dansées par les danseurs. Bon. Tout ce que je disais va dans ce sens où effectivement il y a ce côté plastique que moi je trouvais incroyable, alors qui au final aurait mérité que j'adorais les acteurs danseurs comme tu dis. Peut-être même ça aurait pu, bon après moi j'en sais rien, la manière dont ils ont répété, mais aller encore plus loin dans l'effet de parallèle. Parfois effectivement ils ne pliaient pas les poignets exactement de la même manière, ou certains pliaient les poignets, certains étaient le poing fermé, d'autres la main ouverte, qui justement casse cet effet de répétition.
Personnellement, je ne l'ai pas remarqué. Le poignet à gauche ou à droite,
c'est vraiment un peu... Justement, le problème, on ne remarquait plus.
Ouais, ouais.
Moi, qu'on ne fasse pas dire ce que j'ai pas dit, j'étais fait ouverte. Les 5 premières minutes, j'étais tout à fait ouverte à ce qui se passait devant moi. C'est quelque chose de très intéressant. Après, il va falloir m'expliquer l'intérêt de faire durer la chose je dirais bien 3/4 d'heure.
Voilà. Je pense que...
Et perdre complètement le spectateur, je dirais même que ça a coupé tout lien entre le spectateur et ce qui se passait sur scène. Et moi, je trouve que c'est contre tout ce que doit être le théâtre et tout ce que doit être la danse.
Mais j'entends bien, et ça revient à ce que j'ai dit tout à l'heure, dans l'idée d'un manque d'émotion. Je pense qu'il y a eu ça. Il y a eu un manque, une déperdition d'émotion, on va dire, intense. Et on n'était plus que sur l'émotion plastique. Et là, je te rejoins tout à fait. Mais d'une certaine manière, effectivement, ça aurait peut-être gagné en dynamique dans l'idée de couper une partie. Mais personnellement, je n'ai pas trouvé le temps long parce que, voilà, il faut prendre du recul. Et je pense, heureusement ou malheureusement, dans ce genre de spectacle-là, il faut effectivement soit lire le livret, soit avoir en tête, malheureusement, effectivement, qu'il y a quelque chose un peu intellectuel derrière. Et ce qui n'empêche pas de venir sans forcément beaucoup de bagages et d'apprécier aussi le moment de théâtre pour ce qu'il est, parce que je pense que c'est quand même un gros tour de force d'avoir fait cette partie théâtre où il y a quand même sur le même texte 3 choses différentes.
Une temporalité comme on dit dans la
scène. Exactement, une temporalité sur laquelle on joue. Et puis après au niveau musical proprement dit, je rejoins Adrien sur le fait que c'était d'excellents musiciens.
Ah mais les musiciens ils sont très très bons.
Très très bons, des choix de musique tout à fait pertinents, en plus de la qualité de bac, on sera d'accord. Voilà, et les danseurs, très bons aussi, à la fois très bons acteurs, très bons danseurs.
Mais j'ai pas précisé les points positifs dans ma critique.
Ah, parce qu'il y en avait.
Il y en avait, on va dire que j'ai été tellement déçue et tellement écœurée que je n'avais même pas envie de revenir là-dessus. Alors très bien, je vais revenir sur le fait que je trouvais la performance de Grégory qui jouait du piano absolument éblouissante. Je n'ai pas complètement regretté d'avoir pris mon ticket parce que j'ai eu droit à un quart d'heure de bon concert de piano et j'en suis ravie. Après, j'ai trouvé qu'il y avait un vrai moment de sublimation, un grand moment de beauté au moment où il y a eu cette performance au piano. Je me suis dit que c'était un peu l'effet, je sais pas si vous allez voir de quoi je parle, on peut filmer à peu près n'importe quoi.
Mais c'est tu, Mathilde.
C'est pas trop intellectuel. Hein.
Non, c'est pas intellectuel du tout. Je sais pas si ça vous le fait parfois, vous mettez vos écouteurs sur les oreilles, vous marchez dans la rue et vous avez l'impression d'être dans un clip alors que vous êtes en train de vivre quelque chose de tout à fait trivial, vous postez une lettre et vous avez l'impression de faire quelque chose qui a une signification profonde parce que vous écoutez une musique fabuleuse. Je pense que c'était ça finalement, ça a réussi à sublimer cet instant parce qu'il y avait un fond musical merveilleux, magnifique. Quant au livret, j'aimerais revenir sur le livret, parce que il se trouve que c'est de la contingence pure, j'avais oublié ma monnaie ce jour-là, j'ai pas pu acheter le livret. Et au final, je ne le regrette pas, parce que je maintiens ma position qu'une œuvre, elle se suffit à elle-même, et que s'il y a besoin d'un livret de 20 pages pour me l'expliquer, elle a raté un peu son travail. Même si je suis sûre qu'il y avait des très bonnes intentions.
Oui, mais dans ce cas, ça veut dire que tous les gens qui... ils font et achètent des livrets pour l'opéra, par exemple, c'est mieux mais non avenue.
Non, pas du tout. Je dis juste que parfois, ça peut venir en complément. Le fait même de ne pas avoir la moindre idée de ce qu'on m'a livré, ces histoires de suite de Fibonacci, comment est-ce que je pouvais le deviner?
Ah non, excuse-moi, mais quand tu vas à l'opéra, par exemple, il y a plein de gens qui vont à l'opéra, s'ils n'ont pas les livrets, ils sont complètement perdus, parce qu'ils connaissent pas l'œuvre à la base, parce que c'est en langue étrangère, parce que de toute façon...
Mais c'est pas des intellectuels.
Non, mais c'est pas du tout ce que je dis. C'est...
Moi, je rejoins tout à fait Mathilde dans l'idée qu'un spectacle peut, et surtout, je pense presque, doit se suffire à lui-même, effectivement. Ou alors, on fait en sorte que le livret participe d'une manière ou d'une autre à l'action.
Non, parce qu'il était, il n'était pas obligatoire, le livret.
Aucun livret, normalement, n'est obligatoire, mais effectivement, il était à participer.
Enfin, il était en complément, et moi, je l'ai acheté comme un complément, par contre. Enfin, je l'ai compris vraiment comme un complément. Par contre, j'ai dû revenir après la pièce pour essayer de capter un peu cette histoire de Fibonacci.
Justement, là où je suis d'accord avec Adrien et du coup avec toi, Mathilde, c'est que d'une certaine manière, ça rajoutait des choses, et notamment la suite de Fibonacci. Je pense que bon, alors du coup on se dit ah c'est génial, voilà ils ont écrit en intégrant la fille, mais malheureusement ça nous apporte rien de plus, à part de se dire que bon bah c'est preuve d'un gros d'or, il y a une certaine perfection dans la pièce, etc. Ça peut renforcer soit les délits positifs comme le mien, puis ça peut au contraire avoir l'effet totalement inverse, et donc renforcer l'idée inverse que je peux très bien comprendre, mais il y a l'idée quand même que les trois quarts de la pièce étant uniquement dansée, c'est légèrement long.
Et justement, le découpage en parties qui correspond évidemment à des arts différents n'était pas problématique à la base. N'était pas envisageable de mêler davantage danse et théâtre.
Je pense que c'était déjà un petit peu mêlé. Enfin, moi, j'ai essayé de voir les liens entre les deux parce que voilà, j'ai vraiment essayé de comprendre, de pas être uniquement négative. Parce qu'il y avait vraiment, en fait, si j'ai bien compris, dans la première partie théâtrale, les fameux 5 mouvements relevés par Marie, yoga, finalement, on les a vus dans la partie théâtrale, on a vu chacun de ces mouvements qui après ont été repris dans la partie dansée. Alors moi voilà, mon plus gros reproche finalement, il est vraiment sur le choix d'avoir de la composition finalement, d'avoir fait durer autant la partie dansée par rapport à la partie théâtrale. Nous avoir finalement mis l'eau à la bouche pour pas nous satisfaire après. Et
allumeuse.
Exactement, moi j'ai l'impression d'avoir été allumée.
Mais encore une fois, enfin, je vais vous embêter, hein, mais on revient à l'idée de dosage, hein. Enfin, c'est une illustration complète du dosage, quoi.
Alors, tu reconnais qu'il y a, moi, je veux bien vous dire qu'il y a une idée brillante à la base, et que c'est très mal fait, finalement, assez mal, je veux dire,
je trouve juste que c'est, justement, trop bien fait. Dans le sens qu'il y a trop de bonne volonté, et justement, ça peut nuire, donc là, on est plutôt dans la problématique de quand s'arrêter, et puis on est aussi sur l'idée de la forme par rapport au fond, quoi. Là, on est complètement sur quelque chose d'esthétique.
Et là, faut sortir de problématiques formelles. C'est fini le concours.
Et oui, sauf qu'au final, toute œuvre qui se respecte a une forme et un fond. Et là, justement.
Oui, mais Victor Hugo disait que la forme, c'est le fond qui remonte à la surface.
Exactement, mais on en avait
peut-être. S'il vous plaît.
On serait obligé d'atteindre le point Goldwyn. On en avait peut-être parlé déjà lors de l'homme qui rit.
Peut-être.
Bon. Juste pour revenir là-dessus, en fait, moi, ce qui m'a gêné, c'est que. En faisant ce choix, tu dis, d'un manque complet d'émotion et même d'avoir un peu perdu le spectateur, je pense qu'on n'est plus du tout dans de la représentation. Et je pense qu'on était presque dans, à la limite, si ça avait été un peu une installation d'art contemporain, quelque chose de filmé qu'on représentait dans un musée, j'aurais peut-être été plus réceptive. Voilà, c'est ça qui me pose un problème, c'est qu'il n'y avait pas cette idée de la représentation.
Moi, je trouve quand même que c'est un spectacle qui est relativement abouti.
Toute la famille.
Est-ce que finalement, le problème de ce spectacle, c'était peut-être pas d'avoir cherché une perfection plutôt qu'une beauté à ce moment-là?
Je crois qu'on revient à la question, de toute manière, de l'émotion que j'ai soulevée tout à l'heure. Une émotion qui n'est pas assez peut-être humaine, justement. Peut-être que c'est ça qui manque. Une émotion vraiment... Alors, on l'a d'une certaine manière dans la partie théâtre, mais elle est effectivement bouffée, hein, entre guillemets, par le formalisme de la pièce.
Par la répétition, déjà, c'est difficile de faire entrer de l'émotion de répétition quand même.
Exactement. C'est là où on touche peut-être une question, est-ce qu'il faut être initié pour apprécier une telle forme de beauté, entre guillemets, hein. Moi, je sais pas. Moi, je pense que
après, on risque de tomber aussi dans une forme de relativisme qui m'énerve un peu, moi.
Par exemple.
Tu sais, oui, alors, il faut avoir cette culture, ou il faut être initié, ben alors c'est bien. Normalement, on devrait quand même pouvoir plaire à tout type.
Non, mais c'est ce qu'on disait tout à l'heure, on était tous d'accord avec ça, avec Mathilde. On devrait, malheureusement, il se trouve aussi que souvent on n'atteint pas toujours ce but aussi, et qu'il y a des références, des clins d'œil, des choses totalement inconscientes de par l'équipe, le metteur en scène, le librettiste, etc., qui sont dans la pièce, et du coup, que les spectateurs qui ne possèdent pas cette culture n'ont pas. Je pense qu'au contraire, ce qui est sur la répétition devrait au contraire être perceptible par tout le monde. On est sur des maths.
Ça rentre dans la tête, quoi.
Oui, je ne vais pas m'épancher sur ça, mais tout ce qui est la musique Moyen-Âge et même baroque, etc., est quand même fondée au départ sur des proportions. Il y a de toute façon toujours quelque chose de millimétré, de mathématisé. Maintenant, voilà, toute la question est de savoir si on est réceptif ou pas. Ce spectacle, ne reculant pas face à ses choix, faisant ses choix jusqu'au bout, a tout de même ça comme mérite, je pense qu'on pourra pas lui enlever. Généralement, on est tous plutôt d'accord, c'est bien parfois de montrer encore un spectacle.
Pas Michel Drucker.
Bon, pour le mot de conclusion, est-ce que vous m'autorisez un très mauvais jeu de mots? Passacaille pour vous, ça passe ou ça casse?
ou Sakai.
Mathilde. Non, c'est pas Sakai, c'est une passion.
Les cahiers.
Les cahiers.
Alors, les cahiers.
Ça passe pas vraiment non plus.
Et toi, Lola?
Pour moi, ça passe totalement.
Merci à tous les trois. Chers auditeurs, merci d'avoir suivi ce nouveau numéro d'En Spectateur. Nous reviendrons prochainement dans l'été avec la prochaine programmation qui sera donnée en Cantor. Nous avons la visite de la vieille dame qui sera jouée les lundis 14 et mardi 15 avril.
Der Besuch der alten Dame.
Merci Pauline pour ton accent très
sympa. Là, j'ai plus trop envie d'aller voir.
Et Pierre Lunt, j'ai bien vérifié la prononciation, qui se tiendra le jeudi 17 et vendredi 18 avril, toujours en théâtre Cantor. Et excellente nouvelle, nous annonçons aussi que Sosie de la Chapelle va revenir pour l'adaptation de Victor Hugo. Oui, moi excitée à l'idée de Victor Hugo, c'est absolument dingue, pour une adaptation du roman 93. Voilà, on essaye de s'informer et on vous tient au courant. D'ici là, surtout n'oubliez pas d'aller au théâtre, à l'opéra ou au ballet, bref. N'oubliez pas de vivre
l'Enspectatrice.